suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes, le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens.
Nous sommes le premier lundi du mois, il est 8h et bon réveil à tous. Et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max, oui ça va très bien.
Bon, eh bien écoute, je crois que tu m'as ramené une invitée aujourd'hui.
Oui, je dirais même c'est toi qui me l'as ramené, donc
bon,
je salue aussi notre travail commun. Elle s'appelle Catherine et elle est travailleuse sociale.
Oui, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors en fait Catherine, on doit t'avouer qu'on t'a invitée suite à la table ronde qui s'est tenue le 17 mars, qui comme tout le monde le sait bien sûr, est la journée internationale du travail social.
C'est pas la Saint-Patrick.
Et des travailleurs sociaux. Oula. Des travailleurs sociaux qui ne sont pas autocrates. Bref, donc oui, les travailleurs sociaux ont leur journée internationale et donc on l'a fêtée dignement en réunissant des travailleurs sociaux, bien sûr, mais aussi des bénéficiaires, entre guillemets, des minima sociaux en France pour leur demander ce qu'ils pensaient du revenu de base. Alors, j'ai envie de faire une petite introduction un peu particulière parce que ce week-end, le week-end prochain, on vote le premier tour des élections. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien non, nous ne savons pas encore qui va être élu. Et dans ce contexte un peu particulier, on voit deux catégories de candidats qui se distinguent assez fortement par une mesure, justement par rapport au RSA. Et en fait, on voit les cancres, donc c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est Guy Vallette qui a écrit un article que je vous invite à lire et qui justement montre ce clivage entre les candidats de droite qui sont très clairs sur la question du RSA, il faut conditionner le RSA à des heures de travail. Donc 15 heures de travail, ils sont tous d'accord sur le nombre aussi, il y a même pas de... Ils sont tous d'accord, il faut que les gens du RSA méritent de recevoir de l'aide.
Mais tu veux dire que Macron est de droite ?
Eh bien, depuis récemment, en fait. Oui, depuis récemment, il est visiblement de droite, puisqu'il s'amuse à copier Valérie Pécresse et compagnie. Donc, on a ces personnes de droite qui, dans leur conscience, considèrent les pauvres comme responsables de leur situation, parce que, on l'a bien tous entendu, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Et donc, ça donne une stigmatisation, une humiliation, une ségrégation même entre ceux qui sont au RSA, qui ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils font pas assez d'efforts, etc. Et ceux qui ont du travail, qui eux sont méritants, les plus riches évidemment en premier, puisqu'ils sont très riches, donc ils sont très méritants. De l'autre côté, on a les candidats de gauche que Guy Vallette qualifie de candidats à encourager parce que, hélas, personne ne porte le revenu de base cette année. On avait bien Benoît Hamon il y a 5 ans, mais vu qu'il a fait 6%, ça a un petit peu fait peur aux autres. Et ces candidats à encourager considèrent que il faut améliorer quand même les minima sociaux parce que c'est pas suffisant pour vivre. Et donc, au plus on va, il a fait un panel en fait. Et à la fin de ce panel, donc en deuxième position, nous retrouvons Yannick Jadot et en première position ex aequo Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, qui vont un peu plus loin. Et à chaque fois, c'est donc des propositions qui améliorent le montant, bien sûr, pour gagner un peu plus, être un peu plus dans la dignité aussi, pouvoir pas seulement manger et être logé, mais aussi faire des extras, entre guillemets. Mais aussi, on va jouer sur une baisse de précarisation, on va jouer sur donner plus aux jeunes, simplifier plus aussi les aides, les déconditionner un petit peu, même si ça reste conditionné au revenu, même si souvent ça reste conditionné au couple ou à la famille. Donc voilà, donc ça reste un système partiel. C'est pas vraiment une redistribution égalitaire des richesses. Et il cite Richard Titmuss, pardon, qui est théoricien de l'État socialiste britannique, et qui dit « Une politique pour les pauvres est une pauvre politique ». J'avais envie de commencer par ça, parce que le suspense aujourd'hui est à son comble. Et on voit bien les deux directions que prend la société. Donc, on continue à montrer les pauvres comme des boucs émissaires, des responsables. C'est à cause d'eux que ça fonctionne pas bien, parce que c'est des fainéants, très clairement. Et les autres qui vont, au contraire, les défendre, améliorer les conditions de travail, souvent parce que eux-mêmes l'ont vécu. Et on est en train de lutter contre ces régressions où, finalement, le devoir de la victime, ça serait de répondre aux besoins de l'institution pour avoir juste le droit de survivre. On n'est même plus dans le droit de vivre. Donc, je vous renvoie à son article qui me sert d'introduction. Donc aujourd'hui, avec Catherine, on va commencer, on va l'inviter, l'accueillir avec notre question rituelle. Catherine, es-tu prête ?
Oui.
Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, à ton nom, jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Alors ça changerait, sincèrement, je pense que ça changerait le fait déjà d'être plus détendu. Je pense le fait d'avoir un point de sécurité qui fait que tout ce que je vais entreprendre, je sais déjà que j'ai une sécurité et un confort qui sera là, et j'aurai pas à me soucier d'avoir faim, d'avoir froid, ce genre de choses, et je pourrais être à 100% dans mes projets, dans des idées et toutes les choses que je veux mettre en place. Donc ça serait déjà c'est un confort, je sais pas comment le dire autrement en fait, hein,
et une sécurité.
Voilà.
Et du coup, une sécurité qui te permet de penser. Enfin, ça a l'air tout bête, mais
voilà, et de penser et de pouvoir réfléchir à ses projets, à ce qu'on veut mettre en place, et à ne plus avoir. Et je vais revenir toujours à ça, effectivement, mais à ne pas revenir au fait de se dire, oh là là, faut que je trouve de l'argent. Oh là là, j'ai une facture qui va tomber. Oh là là, ma voiture, parce que j'ai la chance d'avoir une voiture, il faut la réparer, elle va tomber en panne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pouvoir aller à tel endroit, etc. Toutes ces questions qui parasitent l'esprit et qui empêchent effectivement d'être posées et de d'être à 100% dans notre quotidien et ce qu'on a envie de faire et de proposer aux autres, de s'ouvrir à la communauté.
L'avenir aussi, j'imagine.
De
se projeter dans l'avenir aussi.
De se projeter dans l'avenir, simplement. Oui.
Il y a des études aujourd'hui qui travaillent sur la charge mentale, alors charge mentale des femmes, la charge mentale des cadres, etc., etc. Et effectivement, la charge mentale des plus précaires, on en parle aussi. Et il y a des études, notamment relayées par ATD Quart-Monde ou l'Observatoire des inégalités, qui montrent que c'est incroyable le temps et l'énergie que ces personnes doivent passer juste pour calculer au centime près. Voilà, ils font leurs courses avec une calculatrice. À la fin du mois, la fin du mois, c'est pas le 30, c'est le 15. Enfin, voilà. Et en termes de charge mentale, avec toutes les conséquences physiques, en termes de stress, de maladie, etc., c'est juste un gâchis humain, quoi. Et on parle même pas de la sécu. Alors, on a discuté un petit peu avant, et ce qui m'intéressait beaucoup à t'inviter, c'est que t'as un parcours qui est particulier. C'est-à-dire que t'es en même temps agent social aujourd'hui, on en reparlera après, mais t'as été aussi bénéficiaire, j'adore ce mot, hein, dis merci à la société quand même. T'as été quand même bénéficiaire d'une mission locale, et t'as connu des années de galère.
Oui,
est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui auraient eu la chance, comme moi par exemple, de ne pas devoir passer par cette étape-là?
Oui, je vais résumer. Je vais résumer X années. En fait, moi, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Et c'est vrai que déjà, j'ai arrêté l'école pour une orientation qui n'était pas bonne et tout ça. Donc après, je me suis mis en ménage. Et donc, je me suis retrouvée dans l'univers de la vie active. Sauf qu'effectivement, pas de diplôme, pas d'argent. Pas de rien, en fait, rien pour se projeter, que le temps présent, on essaye de trouver du boulot, et là on y croit en plus, hein. J'ai jeté des CV à droite à gauche, et effectivement, à 18 ans, je me suis retrouvée toute seule dans l'appartement, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 18 ans, on n'a pas le droit au RSA, on n'a pas le droit d'avoir des aides, on a le droit à rien. Donc ça veut dire soit on travaille, soit on cherche de l'argent. Et voilà, et le but il est là, c'est qu'effectivement après on rentre dans une mission locale et on explique tout ça, et là on nous intègre dans des formations, on nous trouve des aides, on nous donne des bons alimentaires, on nous donne toutes ces choses qui font que on remplit notre instant présent. pour vraiment payer ses factures, manger, c'est que du quotidien en fait, c'est vraiment que le quotidien, on ne pense qu'à ça. Et effectivement, j'ai continué comme ça jusqu'à mes 25 ans, et c'est la phrase que j'avais dit, c'est vrai que je retiens, c'est je me suis toujours dit dans cette période-là, à 25 ans au moins je toucherai le RMI à l'époque, et au moins ça me ferait une sécurité et je serais sûre de ne pas finir à la rue ou quoi que ce soit. Et à partir de j'ai continué ma vie comme ça, où j'ai réussi à trouver du travail ou des formations, et à l'âge de 26 ans j'ai fait une première formation d'aide médico-psychologique. Et là, effectivement, je l'ai fait avec mes ACEDIC. Ça ne doit plus s'appeler comme ça. Avec mes ACEDIC. Et arrivé à la fin des ACEDIC, ben, paf, directement, ça y est, ben, on a usé toutes ces ACEDIC pour faire la formation d'un an. Hop, il faut tout de suite retrouver du travail, se remettre en route, rempoter le gouffre financier qu'a été cette formation. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, hein, ça fait des déplacements, ça engendre beaucoup de choses. Et voilà, donc après le travail, j'ai continué ainsi de suite, où j'ai travaillé auprès de personnes handicapées. Et là, j'ai eu la motivation, j'ai recommencé une formation de monitrice éducatrice. Et là, c'est pareil, j'ai cherché à tout prix à faire un contrat professionnel, parce que dans ma tête, il fallait perpétuellement travailler pour gagner de l'argent et se former et avancer dans la vie. Donc j'ai gardé ce moteur de cette insécurité, je l'ai gardé très très longtemps, et voilà. Donc après j'ai continué à travailler en tant que monitrice éducatrice ces deux années que j'ai effectué, et il y a quelques temps là j'ai passé mon diplôme d'éducatrice, et rebelote, je l'ai fait en cours du soir parce que je devais travailler à côté pour me former, avoir de l'argent, pouvoir payer mes factures, et ainsi de suite. Et c'est toujours un enchaînement. C'est quelque chose qui reste constamment présent, cette peur de ne pas y arriver à la fin du mois, en fait.
Comme une course en avant perpétuelle,
voilà.
En fait.
Oui, oui, oui.
Et en même temps, une course en avant, et en même temps, comme tu disais, le nez dans le guidon du quotidien, à devoir gérer heure par heure avec un rythme effréné. Et t'as tenu longtemps comme ça?
Alors, moi, je dirais, ouais, j'ai tenu longtemps, parce que là, je pense que ça a duré énormément d'années, ou même j'ai expliqué, il y a de ça un an et demi maintenant, j'ai fait un burn-out.
Bravo, bravo, bravo. Tu es maintenant dans la grande catégorie, la grande famille des burn-outés.
Ben oui.
Welcome.
Oui, oui, oui. Et c'est là où vraiment, c'est mon corps qui a dit stop, en fait. Hein, je me suis arrêtée, je ne savais plus me lever. Et là, effectivement, ça a été une grosse panique de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus rien faire. Et en même temps, le médecin m'a mis en arrêt. Et au final, ce temps de pause a été extrêmement bénéfique, parce que en fait c'est pas le tout de se mettre en arrêt. Des fois on se dit je suis fatiguée, je vais me mettre en arrêt. C'est pas ça, parce que moi au tout début de ce burn-out, hein, où je me suis dit oh là là, il faut que je change de boulot, il faut que je travaille, et à un moment et on relâche la pression, on s'arrête, on prend du recul, on fait mais je pense de travers, je pense mal, là ça ne va pas, il faut que je trouve une autre solution, il faut que je fasse autre chose. Comment
ne pas replonger dans un nouveau burn-out?
Comment
ne pas garder la même course?
Comment prendre du recul et prendre soin de soi pour continuer à être toujours dans la vie active, hein, et partager des choses dans la société et avancer.
Et prendre soin des autres, parce que tu n'as jamais arrêté ça. Finalement, c'était toujours soit les handicapés, les personnes âgées, éduques.
Eh bien, je propose une petite pause musicale, histoire de prendre un petit peu de recul, sans doute pas de hauteur. Mais Yvon Etienne va nous apprendre pourquoi il est important d'aller travailler.
Mais oui, pourquoi ?
C'est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse ou pas le poil dans la main, rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est à l'école qu'il faut choisir, en mettre un coup et bien marner, pour pouvoir espérer devenir un vrai de vrai ramier.
Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Car pour buller, faut la jouer fine, pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Tous les milieux sont concernés, les riches, les pauvres, même les curés, avec ceux qui passent leur journée à faire semblant de bosser. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Les ceux qui fabriquent des canons ont leur statut dans les blédards. Personne n'a sculpté le mirliton de l'inventeur du plumard. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Un jour y en a et pas le lendemain, un coup tu ris, un coup tu pleures. Car le travail ça va, ça vient, comme les burnes d'un faucheur. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer.
Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard quand tu seras grand? Je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurais pas le temps de faire ce que j'aime. De bilan de compétences en stage de formation. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y'en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job. Qui a l'air chiant comme l'enfer et payé pot de zob. Parti, tu vas produire de la merde en tube et la fourguer à des pauvres gens avec un peu de pub. Ou dans un atelier devenir plus con qu'une machine. Jusqu'au jour où en arrivant y'a même plus l'usine. Il paraît qu'on veut redonner goût au travail en France. Alors faut trouver un goût sucré comme les vacances. De toute façon nous on a déjà trop de trucs à faire. Chouette, utile et rigolo qui valent mieux qu'un salaire. On n'est pas des tirs au flanc, parasites et salauds. On fait ça pour le pays, l'idée nous vient d'en haut. Une entreprise monte en bourse quand elle licencie. Comme qu'on n'est pas bossé, c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit, sans parler de tout ce qu'on jette, pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette, se trouver un toit même en bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi.
Les Malpolis sur les ondes de Radio Campus.
Nous allons écouter maintenant deux extraits de, bah, justement, de notre table ronde. Nous avons reçu Nabila. Nabila, qui est une jeune qui aujourd'hui est accompagnée par une mission locale. Elle était invitée par Pascal, qu'on entendra plus tard. Et elle est toute jeune. Elle a pas encore 25 ans. Donc, effectivement, pour l'instant, elle a droit à rien ou quasiment rien. Et ensuite, on entendra Fanny, qui elle aussi a eu un parcours assez chaotique quand elle était jeune et qui pourtant, bah, ne s'est pas laissée démonter puisque aujourd'hui, elle est travailleuse sociale.
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui, pour qui c'est compliqué de s'en sortir tout simplement dans la vie. Dans le sens où, pareil, comme on parlait tout à l'heure des études, c'est vrai que les personnes qui ont la chance de faire de grandes écoles, par exemple, elles ont accès peut-être pour certaines plus facilement à de bons postes, alors qu'elles ne sont pas forcément plus intelligentes qu'une personne qui n'a pas fait une grande école et qui, elle, bah, elle n'a pas eu les moyens de se payer cette école-là et du coup, elle n'a pas la même chance, alors qu'elle est peut-être même plus intelligente qu'une autre. Et alors que si tout le monde aurait un revenu, ça pourrait permettre à certaines personnes de se payer justement ces écoles-là, de se payer un permis de conduire, parce que c'est une galère quand on est jeune d'avoir son permis de conduire, puis après d'acheter une voiture, et puis parce que quand même quand on a le permis, qu'on a une voiture, déjà on peut trouver un emploi dans une zone géographique plus élargie, alors que sinon on cherche à côté de chez nous, et puis c'est compliqué, et puis ben, on travaille à McDo, on gagne 600 euros par mois, et puis c'est un peu la galère. Mais je pense, oui, que ça aiderait beaucoup de gens, même des jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer une entreprise, qui ont des ambitions, et derrière, qui n'ont aucun moyen financier, bah derrière, ils peuvent rien faire, du coup, rien entreprendre. Et il y a beaucoup de beaux projets qui tombent à l'eau juste à cause de ça, parce que personne ne veut les aider, personne ne peut les former. Donc je trouve, enfin pour moi, ça serait intéressant, enfin pour parler de mon expérience personnelle, quand j'étais au lycée, donc je vivais plus chez mes parents et bah, c'était hyper compliqué. Je travaillais au McDonald's et c'était l'année de mon bac, donc du coup je finissais les cours à 17h40 et je commençais le service à 18h30. J'avais juste le temps en fait de sortir du lycée et d'aller à McDo pour travailler. Et je faisais jusqu'à la fermeture parfois et je rentrais chez moi à minuit ou 1h du matin. Et ben c'était là que je me mettais à faire mes devoirs pour réviser pour mon bac. Et tout ça, ça aurait pu être évité. Si on aurait eu un revenu et se dire bah avec ça c'est pas grave. Justement, de le louer à des étudiants qui justement pourront avoir, enfin peuvent avoir les moyens de se louer un appartement, au lieu de se retrouver dans une colocation à 10, c'est quand même pas agréable d'être plein dans un appart. Et puis dès qu'il y en a un qui a pas payé le loyer, bah c'est la galère. Et c'est toujours un stress de se dire est-ce que je vais réussir à finir le mois et ne pas être à découvert, est-ce que cette semaine je vais pouvoir faire les courses, est-ce que je vais pouvoir mettre de l'essence dans ma voiture. C'est du stress en permanence, je trouve.
Voilà. Bah, et puis comme tu dis, toute ta vie elle tourne autour de ta stricte survie.
Oui.
À aucun moment tu peux te poser et te dire bah tiens, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux aller voir des potes, est-ce que je peux me faire plaisir. Mm-hmm. C'est important de se faire plaisir, c'est pas juste ces gros nuls profiteurs, ils se font plaisir. Bah en fait c'est vital, c'est nécessaire. Mm-hmm. Quoi, c'est hyper important. Et même, enfin je sais pas, on va leur donner de l'argent, ils vont plus rien foutre. On a vu en 2 mois de confinement que en fait on n'arrive pas à rester à rien foutre, on devient fou en fait. On a besoin. Tu parlais de dignité, moi je trouve que le mot il est bien choisi, c'est que on a besoin de s'élever aussi dans nos comportements. En fait la société telle qu'elle est foutue aujourd'hui, c'est que soit on est des agents qui vont produire, soit on est des consommateurs, mais est-ce qu'on peut penser notre cadre d'action en dehors de ces deux paradigmes-là? Parce qu'en fait, on n'est pas juste des pions sur un échiquier et on doit rapporter de la thune à Bidule ou à telle personne. Il y a quand même des enjeux plus profonds que ça aussi à défendre.
Et donc là, c'était Fanny qui enchaînait avec Nabila, c'est ça?
Oui, Fanny qui est agent social aujourd'hui et qui a été effectivement dans une même galère, qui a multiplié les petits boulots, qui a vécu cette angoisse-là et qui, au fur et à mesure, s'est rendu compte qu'il y avait deux catégories de personnes qui se dessinaient de ces parcours. Une catégorie qui était respectable parce que avec un emploi et une catégorie qu'elle appelle des merdes, quoi. Les merdes, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le vivait pendant ces périodes de chômage. Du coup, Catherine, ça m'amène à venir maintenant dans ton côté plus professionnel en tant qu'agent social. Qu'est-ce que, à ton avis, ça changerait pour les bénéficiaires, les personnes que tu accompagnes, s'ils avaient un revenu de base quand ils arrivent face à toi, est-ce que ça changerait quelque chose?
Moi, je pense que ça peut changer, ne serait-ce qu'au point de vue d'avoir cet argent, ce revenu de base, pourrait permettre aussi une autonomie qui aujourd'hui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas de revenu ou quoi que ce soit, on en revient au fait de devoir toujours demander. Si on veut faire quelque chose, si on veut rentrer en formation ou quoi que ce soit, il faut faire des démarches pour le bus, avoir des tickets, pour demander de l'argent, pour aller à des entretiens, pour faire ci, pour faire ça. Donc c'est déjà tout ce pan de la recherche vers l'autonomie, vers des formations, des choses comme ça. Si on a le revenu de base quelque part, on peut le faire soi-même en fait. On peut avancer et dire je me suis débrouillée pour faire ça, pour faire ci, et j'ai pas été toujours obligée de demander l'autorisation, de remplir des documents pour dire, pour justifier, etc., etc. Et ça, je pense que c'est déjà un point qui est très important en fait. Le fait de gérer son revenu et de pouvoir décider si oui ou non on le fait, si on y va, si on est acteur au final hein, quand on a ce revenu à nous. On est acteur, on n'est pas dépendant.
Et alors, je te remercie parce qu'on voit dans les expérimentations que c'est tout à fait ça. Donc il y a eu un certain nombre d'expérimentations partout dans le monde. Hein, vous allez les retrouver sur le site revenudebase.info. Mais on voit très bien que, alors d'abord, c'est une des angoisses des dirigeants avant de mettre en place ce genre d'organisation, de répartition de l'argent. Puisqu'ils se disent, ah, mais si les gens ont ça, ils vont plus rien faire, etc. Bon, ils se sont dit exactement la même chose avant les congés payés ou avant le droit de vote des femmes ou même avant l'abolition de l'esclavage. Bon, on a bien vu que finalement, non, ça marche pas comme ça. Mais bon, ils continuent à avoir peur de ça. Et donc, il y a un certain nombre d'expérimentations qui vont justement aller vérifier si les gens continuent à travailler. On en a déjà parlé dans cette émission. Voilà, on voit que oui, les gens continuent à travailler, sauf les jeunes mamans. Bah oui, elles gardent leurs enfants. Et les étudiants, bah oui, ils étudient, comme leur nom l'indique. Donc il y a ça. Et il y a aussi cette espèce d'angoisse de dire, oui, mais si on leur donne de l'argent, ils vont se droguer plus, ils vont mal l'utiliser. On a déjà aussi abordé dans cette émission justement, ils réussissent très bien à prioriser. Ils sont pas des enfants. Au contraire, quand on leur fait confiance, quand on leur rend leur dignité, ils apprennent et ils sont citoyens et adultes. Et en fait, c'est nous, je parle en termes de système, mais aussi de catégories supérieures, c'est une espèce de syndrome du sauveur. C'est-à-dire que moi qui suis riche, je me dis il faut que je sauve un pauvre. Donc il y a les bons pauvres et les mauvais pauvres. Il y a les bons pauvres qui vont accepter mon aumône et qui vont me dire merci. Donc moi je vais recevoir de la reconnaissance, je vais m'en sentir grandi, je vais me sentir utile aussi d'aider quelqu'un qui est dans la pauvreté. Et en même temps, il y a les mauvais pauvres, c'est ceux qui quand même devraient faire des efforts parce que quand même eux ils devraient s'en sortir, s'ils pouvaient, ils le feraient, etc. On a exactement les mêmes schémas par exemple face aux personnes qui sont obèses, etc. On a des préjugés comme ça sur des catégories de personnes. Quand c'est pas les jeunes, c'est les pré-retraités, c'est les étrangers, c'est les fonctionnaires, c'est les femmes. Enfin bref, on est tous soupçonnés de fainéantise. Et j'ai envie de citer des expériences. Donc il y en a une qui a eu lieu à Londres auprès de 13 SDF à qui on a donné 3000 livres cash, comme ça. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait juste une question, c'était qu'est-ce qui est le mieux pour vous à votre avis ? Et ils avaient droit à un accompagnement social. Et en fait, ils ont construit, pourquoi 3000 livres ? En fait, ils ont évalué le coût d'un pauvre. Un pauvre, en fait, c'est quelqu'un qui peut dégrader, c'est quelqu'un qui va nécessiter de soins particuliers, etc. En fait, un pauvre coûte à la société, c'est horrible à dire. Mais du coup, ils ont renversé ça, ils ont dit, plutôt que le pauvre coûte à la société, y compris en police, etc., on va investir cet argent, on va leur donner directement. Et ça a marché, et non seulement ça a marché, mais en plus ils se sont rendus compte que l'accompagnement social, finalement quand les personnes vont vers l'accompagnement social, il est beaucoup plus efficace que quand on les oblige à y aller et que ça devient un flicage. Et en plus, ça coûte 8 fois moins cher. Donc économie, rentabilité et en même temps bénéfice humain puisque les personnes sont vraiment remontées. Donc sur les 13 personnes, elles sont toutes retournées au travail, elles sont toutes réintégrées à un logement. Elles ont aussi renoué des liens avec leur famille, elles sont allées vers des formations et finalement quand on regarde leurs dépenses, elles sont très raisonnables puisque la plupart n'ont pas dépensé plus de 800 livres la première année et ça a été vers la formation, ça a été vers un dictionnaire, ça a été vers un téléphone, ça a été vers des tickets de transport, etc. Donc des choses qui sont en fait des investissements pour s'insérer vers la famille et vers la société. Pareil en Finlande, il y a une expérimentation qui a duré 1 an et demi où ils ont ciblé 2000 chômeurs pour voir mais si on leur donne une partie inconditionnelle, est-ce qu'ils vont continuer à chercher du travail ? Eh ben oui, c'est incroyable, mais oui. Et en plus, ils vont mieux, ils sont moins stressés, ils sont moins malades. Bon, je ne vois pas pourquoi on continue à hésiter. Même les ONG qui travaillent au niveau international, notamment sur l'Afrique ou sur l'Asie, avant c'était des grandes campagnes, sur la nutrition, sur les filles à l'école. C'était en fait à chaque fois des campagnes assez ciblées qui étaient très coûteuses en logistique, qui en plus avaient des dérives de corruption puisqu'il y avait une partie des dons, par exemple, qui était filtrée, etc. Et en fait, ces ONG sont en train de découvrir de façon assez unanime que le fait de donner directement aux gens du cash, c'est une grande économie en termes de logistique et les gens savent eux-mêmes réutiliser cet argent et en plus ils l'utilisent localement, ce qui rebooste l'économie là où ils sont en fait directement. Et comme c'est versé directement sur leur téléphone, il n'y a plus de détournement et de problèmes de corruption. Donc on voit qu'on a un syndrome du sauveur qui nous pousse à vouloir aider les gens mais limite contre eux-mêmes et en plus en les réduisant, en les mettant en situation d'infériorité. Mais qui finalement est complètement contre-productif. Et un autre exemple, et dans notre débat l'autre soir, on en parlait, on citait toutes ces personnes qui finalement ne sont pas obligées de travailler, pourraient même s'en passer largement. Et notre rêve, nous qui rêvons d'avoir un quart d'heure de libre de temps en temps, ne rien faire. Et bien en fait, ces personnes, elles travaillent. On a évoqué les personnes qui sont en prison, pour qui c'est même une récompense de pouvoir travailler dans des ateliers où elles travaillent beaucoup et elles sont sous-payées. On a évoqué aussi les personnes en ESAT, les personnes qui sont bénéficiaires de l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, qui pourtant vont travailler, qui s'en font une joie, qui retrouvent du collectif, du sens, de la contribution. On a évoqué aussi les compagnons d'Emmaüs qui ont toujours pas un statut reconnu de travailleur, alors qu'ils font 45 heures semaine minimum. Ils sont des personnes accompagnées. Merci Martin Hirsch. Et évidemment, on pourrait parler aussi des retraités hyperactifs, etc. quoi. Donc, ce soupçon de fainéantise, il faut l'éradiquer. C'est un biais cognitif terrible qui est juste dû à nous, entre guillemets, juste notre besoin de repos, qui vient colorer nos projections sur les autres, en fait. Rien à voir. On va enchaîner maintenant avec d'autres témoignages.
Un salaire, au moins, on va dire un revenu universel, au moins les gens, ils auraient au moins accès au minimum. Alors après, sur le niveau, ça par contre, j'ai encore du mal un peu à me positionner, mais au moins, ils seraient rassurés dans le sens où ils vont pouvoir justement s'investir sur, alors comme j'ai envie de dire, professionnellement ou socialement. Je me permets simplement de rappeler que dans le cadre du RMI, la maman qui venait me voir, qui me disait « Moi, je m'occupe de mes enfants, et c'est monsieur qui recherche un emploi », ok, il n'y a pas de souci. Le statut de la femme au foyer ne posait pas problème. Et c'est dans le cadre du RSA, ou alors là, c'était « Ah non, mère au foyer, c'est incompatible avec le RSA ». Et ça, c'est vrai que c'est, même pour nous, en fait, quand on était dans le cadre du RSA, le statut étudiant était incompatible. Enfin, il y avait une petite marge de manœuvre quand même dans le cadre du RMI, qui n'existe plus du tout dans le cadre du RSA. Et oui, c'est vrai que c'est, pour les personnes, ce sera, alors à la fois, moi je parle du revenu, mais même pour l'accès aux soins. Quand on voit la complexité maintenant pour renouveler les dossiers CMU, CSS, ça devient dramatique. Donc oui, pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir au moins un revenu de base. Je prends des exemples parce que l'articulation entre l'AH, la CARSAT, alors l'AH, l'allocation du handicapé, le RSA, à 62 ans, les dossiers retraite.
Mais c'est du en parler,
ça devient gravissime. Donc, voilà. Donc, oui, bien sûr, ça peut être que positif.
une pratique de la manche. Et un jour, il me dit qu'il a plus de quoi finir ses fins de mois et du coup, plus de quoi manger. Et je lui propose de faire une orientation vers le Resto du Cœur. Et il m'a dit, honnêtement, entre aller au Resto du Cœur et faire la manche, je choisis la manche. Et en fait, le fait de toujours devoir se justifier de « je suis pauvre », finalement, ça rentre, les gens rentrent dans un étiquetage et à la fin, ils ne peuvent plus se considérer autrement que comme étant pauvre ou en précarité. Et ça, je trouve ça très difficile en termes d'estime de soi et de la façon dont les gens se voient, finalement. Et toujours justifié d'être pauvre quand on va même dans une épicerie solidaire, quand on va même pour obtenir le RSA ou... Enfin,
ça met les gens dans des cases.
C'est ça, exactement. Et du coup, les gens s'empêchent de se développer. Ce monsieur, il est ingénieur, enfin, il a fait de hautes études, c'est quelqu'un de très intelligent. Et en fait, de par son parcours de vie, il y a eu des ruptures. Et après, hein, enfin, il a tout perdu et il s'est retrouvé à la rue. Mais, et après, quand un jour je lui ai dit, mais c'est très paradoxal de refuser d'aller au Resto du Cœur, mais d'aller faire la manche, parce que finalement, il dépend aussi des gens. Et en fait, il m'a dit, mais quand je fais la manche, je rencontre des gens. Peu de reconnaissance parce qu'il était cuisinier et comme il dit, il a travaillé avec les plus grands chefs, enfin avec vraiment des grands chefs. Et il s'accroche à cet emploi. Et souvent, je lui renvoie, mais quelle est ta priorité? Parce que finalement, si le véhicule ne peut plus avancer, comment tu veux aller à l'emploi? Et ce qu'il me dit, c'est il a bien conscience qu'il devrait se concentrer sur les soins, mais la valeur emploi et justement la reconnaissance, c'est tellement important pour lui. Parce que finalement, en fait, s'il se concentre sur sa santé, c'est quoi qui le définira? C'est son addiction? C'est sa difficulté? C'est le fait qu'il soit hébergé dans nos locaux? Alors qu'en fait, il a bien plus de compétences que ça. S'il était cuistot, c'est qu'il a aussi la valeur du partage, la valeur de la reconnaissance, de tout ça. Enfin, donc, ouais. Le revenu de base permettrait peut-être aux gens de se reconnecter aussi avec leurs besoins.
Qui c'est qui fume, qui c'est qui vole, qui c'est qui joue, qui c'est qui picole, qui c'est qui fait des morpions pour toucher les allocations, qui c'est qui se plaint tout le temps, qui c'est qui a mal aux dents, qui c'est qui mange des sardines avant d'aller à l'usine, les salauds. En bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès d'être dans le même immeuble que moi. Des salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. Ils sont pauvres, ceux qui aiment ça. Qui c'est qui est pas sérieux, qui a pas les trous en face des yeux? Qui c'est qui habite en banlieue? Qui c'est qui dégrade? Qui c'est qui met le feu? Qui c'est qui respecte rien? Qui dit pas bonjour à son voisin? Qui c'est qui boit comme un trou? Qui sait plus pourquoi tellement qu'il est sous? Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi. Qu'ils le font exprès d'être dans le même immeuble que moi. Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi. À croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça. Qui c'est qui est pas productif? Qui c'est qui est pas compétitif? Qui c'est qui comprend rien? Genève, Berlin. Qui c'est qui consomme pas assez? Qui c'est qui a pas d'immobilier? Qui c'est qui a le scorbut? Qui a pas de golden parachute? Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi. À croire qu'ils le font exprès d'être dans le même immeuble que moi. Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi. À croire qu'ils le font exprès s'ils sont pauvres ceux qui aiment ça. Qui c'est qui vit à crédit? Qui paye tous deux fois son prix? Qui c'est qui a plus un rond? Qui fait des chèques sans provision? Chez moi, à croire qu'ils le font exprès d'être dans le même immeuble que moi. Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi. À croire qu'ils le font exprès s'ils sont pauvres et qu'ils aiment ça.
Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société. Vous ne voulez pas travailler ou vous avez été rejeté par la société.
qui ont osé témoigner, les agents sociaux, mais aussi les bénéficiaires qui étaient présents lors de la table ronde. Mais j'ai envie de partager rapidement. Voilà, ça fait presque 10 ans maintenant que je colporte cette idée de revenu de base en me disant qu'elle est généreuse, qu'elle est magnifique. Et quand je suis intervenue devant des personnes qui étaient en formation dans le cadre de leur RSA, grâce à Eric qu'on entendra à la fin, et ben finalement je suis tombée un peu de haut parce que ils ne m'encensaient pas comme une messie. C'était impressionnant. J'arrivais avec un revenu de base, ils me disaient mais non, on ne veut pas de revenu de base. Quoi ? Non, en fait ils me disaient nous on veut un travail. Parce qu'il y a de la dignité avec le travail, alors que si vous me donnez de l'argent, ben, il n'y a pas de dignité. Et puis, deuxième réaction, c'était, oh, mais attendez, vous nous dites ça, mais où elle est l'embrouille? Parce qu'on a l'habitude de nous dire, on a droit à ceci, cela, et en fait, c'est tellement conditionné que si on a un enfant de 18, 20 ans, eh ben, finalement, on l'a plus, et que si on déborde d'un euro, eh ben, on n'a plus le droit, du coup, à la réduction de la bibliothèque, etc. Et puis, enfin, la troisième réaction, une fois que vraiment, j'avais expliqué que non, il n'y avait pas d'embrouille, tout ça. C'était « Ah, bon, ok. Ah, bah alors, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Et très vite, ils enclenchaient vers des projets très, très concrets, très, très précis, souvent de petites activités, de quartiers, des choses qui partaient de leurs propres compétences, respectueuses de leur rythme et aussi du rythme de la vie, avec des enfants, par exemple, ou avec des parents malades. Voilà, quelque chose qui était beaucoup plus, finalement... beaucoup plus écologique en termes humains et écologique en général. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se tourne vers les travailleurs sociaux eux-mêmes, parce que c'est quand même un métier qui n'est pas complètement facile. Donc avant d'entendre quelques témoignages, Catherine, j'aimerais bien avoir le tien. Toi, si tu recevais ton revenu de base, qu'est-ce que ça changerait dans ton emploi? Pas seulement dans ta personne en général, mais en termes de travailleur social.
Au niveau de mon emploi... Je pense que ça changerait effectivement le parce qu'il y a de la précarité aussi au niveau des travailleurs sociaux hein, donc mais je pense que ça changerait aussi il y a moi je parlerais aussi peut-être de reconnaissance hein, ce revenu de base aussi hein, le fait d'aller travailler mais pas forcément effectivement pour payer ses factures ou quoi que ce soit mais ça me permettrait déjà, si c'est quelque chose d'universel quelque part, c'est aussi parce que toutes les personnes que je vais rencontrer aussi l'auront, et ça sera les cartes sont les mêmes pour tout le monde, on va dire ça, je vais le dire
oui,
comme
c'est ça.
Et on sera sur le même pied d'égalité à parler d'avenir et de projets et d'accompagner les gens dans le même sens en disant. En partageant des solutions, des idées et ce que peut apporter d'autres activités à côté en ayant ce revenu de base. Je pense, je sais pas si ça a été clair, mais voilà.
Oui, donc en fait, il y aurait du coup une relation d'égalité, d'équivalence. Oui. Ce serait plus une personne qui aide quelqu'un qui s'en sort pas. Voilà. Ce serait plus quelqu'un qui a des compétences ou des connaissances, qui les met au service et puis l'autre qui vient se servir. Et du coup, ça serait plus choisi finalement l'accompagnement, comme le travail d'ailleurs.
Voilà, ça serait plus choisi et dans ce sens-là. Et si je devais revenir aussi sur le fait de la surcharge de travail, sur le burn-out, effectivement, je pense que il y a un moment si on travaille avec l'humain et effectivement on peut être confronté à un épuisement comme d'autres métiers hein, j'en suis consciente hein. Mais il y a aussi ce fait aussi peut-être effectivement de pouvoir relâcher un moment de pouvoir s'éloigner un petit peu pour mieux revenir et sans que c'est des conséquences catastrophiques, sans qu'on ait, oh, j'en reviens toujours au même, hein, des angoisses ou un peur de tout perdre, une crainte de tout perdre, ce genre de choses en fait.
Oui, ce que j'entends aussi, c'est que du coup, dans tous ces métiers du care où on y va plutôt parce qu'on a envie d'aider les autres, quand on le fait contraint parce que on a besoin d'argent, etc., finalement, ça enlève l'élan, ça enlève le goût que ça a, ça enlève le choix d'aller vers les autres pour échanger, partager, etc. Ça devient comme un boulot finalement d'usine, quoi.
Mais c'est ça, puis on a une partie de notre cerveau qui est préoccupée par toutes ces choses-là, alors qu'on est nous-mêmes en train de chercher des solutions pour quelqu'un d'autre. Donc, y a une incohérence, en fait, là-dedans.
Et alors, beaucoup de porteurs de propositions de revenus de base imaginent que, du coup, on pourrait réorienter un certain nombre de tâches, notamment toutes les tâches administratives ou de contrôle, etc., qui vous incombent de plus en plus, pour aller alimenter, finalement, plus d'accompagnement, d'insertion, de formation, d'utiliser vos compétences pour ça.
Oui, parce que en fait... Tout l'administratif prend énormément de place et c'est des choses qui peuvent parfois être compliquées et on peut se retrouver en face de personnes effectivement soit elles vont avoir une panique de remplir tous ces papiers, de faire des erreurs, de se tromper, ne pas savoir les remplir ou quoi que ce soit. Donc quelque part c'est effectivement un métier, c'est un métier à part de remplir ces documents administratifs et de mettre tout à plat pour rentrer dans des cases et avoir
trois sous pour survivre.
Voilà. Donc c'est beaucoup de temps et de travail pour avoir trois sous et survivre. Et à côté de ça, ça nous laisserait le temps effectivement, nous, de s'occuper de la personne et de son bien-être.
On va écouter d'autres réponses de travailleurs sociaux. Est-ce que tous les travailleurs sociaux arrêteraient de travailler si on les laissait, disons 1 000 euros par mois?
On va demander à Pascal.
La chance que j'aurais dans mon travail, c'est que je verrais des personnes qui viendraient uniquement parce qu'elles ont des besoins non matériels. Par exemple, des questions d'orientation professionnelle, des questions de vouloir discuter, de vouloir échanger, des questions de besoin en formation. Ça, c'est mon vrai travail. Et moi, je préférais pouvoir faire ça et que ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir parce que pour avoir l'argent que je leur verse, elles ont besoin de venir justifier de démarches, de venir à leur rendez-vous mensuel, etc., etc., etc. Et ça renverserait vraiment la manière que j'aurais de travailler. Puisque je pourrais consacrer beaucoup plus de temps aux personnes qui en ont réellement besoin, qui ont des besoins non matériels, et en plus arrêter de passer ma vie à faire du reporting, de faire des bâtons, machin est venu, machin n'est pas venu, devoir faire des sanctions, bon j'en fais pas trop parce que c'est ça qui serait intéressant. Et je voulais juste apporter une petite précision, je profite parce que j'avais rien prévu de dire. Pour le financement, il n'y a pas de sujet. Quand vous trouvez 50 milliards pour filer à 2-3 patrons, vous trouvez quand on veut construire des armes, quand on veut. Enfin, non, il n'y a pas de sujet. J'ai plus le PIB, le produit intérieur brut de la France, la richesse qu'on fait, je crois que c'est 2000 milliards ou 2500 milliards. C'est plus qu'en 45 quand on a inventé la Sécu. Enfin, il n'y a pas de sujet. Si on veut mettre de l'argent dans une boîte et l'utiliser correctement, on peut le faire. C'est juste que là, il n'y a pas l'envie. Pour l'instant, il n'y a pas la volonté politique. Il y a la volonté de se servir et pas d'utiliser de manière intelligente. Mais il n'y a pas de sujet sur l'argent. C'est juste de la bonne gestion. Gérer intelligemment, partager. Voilà, j'ai fini.
Hop, et donc lui, c'était Pascal. Et je vais passer immédiatement à Marion. Tu veux...
Personnellement, si je recevais un revenu de base de 1 000 euros, moi, je le mettrais à mi-temps.
Bien.
Parce que, en fait, je pense que pour prendre soin des autres, il faut déjà commencer par prendre soin de soi. Et on commence à arriver, en plus, dans notre boulot à beaucoup de bureaucratie. Donc, on n'est plus dans la relation. On est simplement dans « je vais remplir le dossier de CMU, je vais vous ouvrir vos droits ». Et en fait, du coup, moi, je me sens parfois plus éducatrice et je plaisante avec les gens en leur disant « est-ce qu'il y a écrit ce critère ?» Parce que parfois, je me sens plus éduque, en fait. Donc, moi, pour ma part, je me mettrai à mi-temps pour pouvoir aussi mieux m'occuper de moi, mais aussi des autres. Et par rapport au public que j'accompagne, c'est un public qui a vécu, qui a connu une période à la rue. Alors, de plus en plus, on est sur un public qui est très hétérogène. On accueille de plus en plus de personnes qui sont en situation administrative bloquée. Et c'est malheureux, en fait, de voir que ces gens qui n'ont pas les papiers ont les compétences, ont le désir d'avancer, mais à cause des papiers, ils n'ont rien.
Donc, quelque part, tu peux tolérer d'être moins bien payé parce que, comme éthiquement, ce que tu fais, c'est beau, c'est propre, tu l'as choisi, quelque part, tu peux endurer sans problème d'être sous-payé pour ce truc-là parce que c'est beau ce que tu fais, c'est grand ce que tu fais. Donc, quelque part, t'es pas Rothschild, mais quelque part, c'est pas si grave, t'as pas à te salir les mains, quoi. Il y a un peu ça qui est sous-entendu, j'ai l'impression, en tout cas dans le milieu associatif. Et ensuite, encore une fois, double peine, là, on est aussi dans le milieu du care, qui est quand même un secteur essentiellement féminin. Et on sait que dans tous les secteurs d'employabilité où les femmes sont surreprésentées, c'est des endroits qui vont être moins bien payés, globalement, quoi. Donc tout ce qui est le soin de l'autre, le soin à la personne en général, l'éducation, tous ces secteurs-là, bah finalement, prendre soin des gens, c'est bien beau, mais est-ce que ça fait vraiment tourner l'économie, quoi ? Est-ce que c'est vraiment utile à la société capitaliste de s'occuper des démunis, des fragiles, des pauvres, des petits, quoi ?
Merci beaucoup. Alors, on a entendu le début du témoignage de Laurent. Laurent qui est à l'AAH, on en a parlé, hein, c'est l'allocation pour les adultes handicapés, et qui se disait que c'était quand même un comble parce qu'il se sentait plus en sécurité avec l'AAH que certaines personnes qui l'accompagnaient dans le lieu où il est reçu et soutenu. Et il témoignait aussi que quand il était ado, il avait très très peur de l'avenir et qu'on lui avait dit « il faut faire de longues études, mon garçon, pour pouvoir trouver de la sécurité et un bon emploi ». Et en fait, bah c'est ce qu'il a fait. Il est allé ingénieur, il a fini par trouver à France Télécom. Bon, en regrettant quand même que les fils à papa avaient les meilleures places et eux étaient sécurisés. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'est retrouvé aussi dans un placard. On connaît tous l'histoire de France Télécom et des techniques de management qui ont été désavouées par la justice elle-même. Et donc, en fait, il a fini par faire un burn-out qui lui a laissé des traces. Et en fait, il en arrive aujourd'hui à militer pour le revenu de base en se disant qu'il y a un tas d'emplois inutiles, des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. On ne sait même plus qui est son patron. On ne peut même plus s'adresser on ne sait plus à qui s'adresser pour nos conditions de travail. Il disait, en fait, si on supprime tous les emplois inutiles, si on redonne aux gens la possibilité de choisir ce qui est bon pour eux à partir de leurs compétences et de ce qu'ils aiment faire, ils le feront mieux. Parce que quand on n'aime pas son travail, eh ben, ça s'appelle le présentéisme, c'est-à-dire qu'on en fait de moins en moins. Et c'est un vrai coup pour la société. On a des études qui nous le prouvent aussi. Et donc voilà comment Laurent en est arrivé à soutenir le revenu de base et militer pour le revenu de base depuis. Donc là, en fait, notre émission tire à sa fin. On ne sait toujours pas qui gagnera, si c'est le camp des cancres ou si c'est le camp des candidats à encourager pour les prochaines élections. En tout cas, on a un certain nombre de préjugés chacun et tous à dénouer, à réinterroger. Est-ce que les pauvres sont fainéants? Est-ce que les travailleurs sociaux sont vraiment là pour accompagner ou fliquer? Quel est le sens de tout ça? Et peut-être que chacun, on a notre mot à dire. Parce que on a tous, on connaît soit déjà ce qu'on ressent, dans quel état on est, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire, ce qu'on fait très mal d'ailleurs, même si on s'y met avec beaucoup de cœur et de courage. Un dernier mot, Catherine.
Déjà merci de m'avoir reçue et d'avoir écouté mon point de vue et ce que j'avais à dire et d'avoir fait cette table. Où on a pu se réunir, effectivement, échanger. Ça fait du bien de dire qu'on peut donner notre avis, proposer, et que y a des gens qui sont là pour s'en occuper, on va dire ça comme ça.
Oui, et tu parlais aussi à la fin du fait que ça renoue avec l'espoir de savoir qu'il y avait des solutions très concrètes pour que le monde aille mieux et que c'était pas un doux rêve qu'on peut faire chacun le soir quand on n'en peut plus.
De notre côté, oui.
C'est ça. J'ai envie qu'on laisse la parole à Eric pour terminer. Eric, figurez-vous qu'il a été formateur pour des personnes au RSA. Il a une tête de savant fou, il a une érudition de fou savant, et c'est à lui que je vais laisser la conclusion. Et juste avant, je vous rappelle qu'il y a une initiative citoyenne européenne à signer pour montrer qu'on soutient cette idée de revenu de base.
Je me disais bien qu'on oublie quelque
chose. Sur revenu-de-base.info. Et le thème du mois prochain, le mois prochain sera au mois de mai. Et vous nous entendrez juste après le 1er mai. Donc on parlera de travail, des mutations du travail, notamment par rapport à la transition écologique. Eric, c'est à toi.
En produisant, que cela produise des objets qu'il faut effectivement programmer dans leur obsolescence pour qu'on puisse les remplacer, pour qu'on puisse travailler, pour etc. Voilà. En même temps qu'on est écrasé du lieu commun, de oh là là, la croissance, la ruine de la planète, la ruine des ressources, ceci, cela. Donc on continue à marcher sur la tête, plus que ça, on va dans TGV, dans cette chose-là. Et ce petit levier inverse, en fait, évidemment, est tout à fait terrifiant parce qu'il n'y a aucun intérêt, pour le capitalisme tel qu'il se définit là, de ne pas avoir des travailleurs qui ne soient terrifiés par l'idée d'être au chômage pour pouvoir essayer de gagner leur vie. Donc il n'y a aucun intérêt pour eux.
Eh bien, tous essentiels, c'est fini pour ce mois-ci. Mais on se retrouve le mois prochain pour le travail. Au revoir à tous.
Rendez-vous premier lundi à 8h. Au revoir.
Les gens, tu sais, ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés. La chance ne m'a pas toujours souri, et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, toi t'es bien content de pouvoir profiter de la situation. Mon job te cause moins de problèmes de conscience quand tu veux que je te file du pognon. Bien sûr, assassiner des gens, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux comme profession. Et j'espère que bientôt tu trouveras un boulot qui répond à tes aspirations. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, l'argent, oh, 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 de l'argent pour les gens, pour le frigo des pauvres, pour les riches, pour donner l'aumône et le bakchich. L'argent, 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 de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, les orangs, les duclans, les partisans, les résistants, les fainéants, les mécréants, les océans, les affluents, les influents, les confluents, les chalapans, les charlatans, les caétans, les dictants, les soutants, les insultants, les consultants, les assistants, les insistants, les combattants, les anciens combattants, les débutants, les malportants, les étonnants, les gens. Yeah.